贾樟柯作为中国最年轻一代导演的代表，被誉为当代中国最富洞察力的技术者。
贾樟柯，
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 贾樟柯。
Hors champ consacre une heure à Jia Zhongke, chef de file des cinéastes indépendants chinois sur Radio Campus Paris.
Pas genre de dire que c'était un peu le chef de bande, tu vois, à Pékin, d'un certain nombre de pas mal de gens qui sortaient beaucoup, qui faisaient pas mal la fête. Et c'est quelqu'un d'assez rock, quoi, quelque chose comme ça, qui a une personnalité beaucoup plus délirante que ce qu'il peut dire. Grégory Gageot travaille chez Advitam Distribution et je suis en charge de des acquisitions de films et de la programmation en province. C'est un petit bonhomme bourré de vie et d'énergie et d'une grande gentillesse, une grande intelligence aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a une énorme sensibilité, un regard sur le monde, je dirais quoi, pointu, aigu et mélancolique. Il y a quelque chose de très mélancolique, mais il est en même temps, voilà, plein d'énergie, plein de vie. C'est quelqu'un de très vivant. Il est dans un karaoké ivre mort et il chante la chanson de Plaisir Inconnu qui est au milieu du film, à la fin du film, qui est assez triste. Il prend un plaisir fou, il est comme un dingue, il a...
Jia Zhongke.
Jia Zhongke.
Jia Zhongke.
Jia Zhongke.
Jia Zhongke.
Né en 1970 à Fengyang, dans la province de Shaanxi, nord de la Chine. À 18 ans, entre à l'école des beaux-arts de Taiwan, dans le Shaanxi, pour étudier la peinture. En 93, est admis à l'Académie du film de Pékin, et en 95, fonde le Youth Experimental Film Group, première structure de production indépendante en Chine, avec laquelle il réalise ses deux premiers films en vidéo, Jiaoshan Going Home et Doudou. Diplômé de l'Académie du film en 1997, il réalise cette même année son premier long métrage, Xiaowu, artisan pickpocket.
Xiaowu.
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 En 2000, plateforme.
Zantai.
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 Sélectionné au Festival de Berlin 2001. 2001, In Public, documentaire primé. En 2002, Plaisirs Inconnus.
Ren Xiao Yao.
Ren Xiao Yao.
Ren Xiao Yao.
Ren Xiao Yao.
Sélectionné en compétition au Festival de Cannes 2002. En 2004, The World.
Shiji.
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 Sélectionné au Festival de Venise 2004. Plateforme et Plaisirs Inconnus sont disponibles en DVD chez Arte Vidéo. The World est sorti dans les salles françaises le 8 juin.
Il est dans une certaine lignée de cinéma, je dirais d'une modernité, un cinéma moderne qui fait, je disais un article qui parlait d'un lien avec Antonioni et aussi Ossienne, je suis assez d'accord, quelque chose qui est extrêmement moderne, même en termes de vision du monde et de vision du cinéma, de forme cinématographique. Je pense que si je pouvais décrire le cinéma de Jia Zhongke, c'est que je dirais que c'est un cinéma moderne, complètement aux prises avec son époque, et que ce soit au niveau formel ou que ce soit par rapport au thème, et notamment avec The World, parce que je trouve qu'avec The World, il s'ouvre et il prend un bras-le-corps, un sujet qui est la mondialisation, qui est un rapport au monde lié à ce sentiment-là, qui est très très beau.
Arthur Alvo, je m'occupe de tout ce qui est marketing et matériel chez Advitam. Advitam distribue maintenant ses films depuis son second long-métrage qui était Plateforme, qui est aujourd'hui The World, qu'on sort en salle la semaine prochaine, le 8 juin. Déjà avec The World, il va dans quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus acidulé aujourd'hui. Avant, ces films étaient vraiment sur une jeunesse désabusée, sur un, sur un esprit de vraiment d'une jeunesse dans des villages qui complètement désarmés, sans travail, sans passion, sans rien, qui étaient des films quand même assez durs dans ce que ça racontait sur un possible avenir en Chine. Aujourd'hui, avec The World, déjà, c'est beaucoup plus urbain. Les personnages évoluent à Pékin, qui est une ville qui bouge énormément en ce moment, qui se construit. Et aujourd'hui, on sent que les personnages se reconstruisent à la mesure que le pays se construit aussi. Et là-dedans, il y a quelque chose déjà de beaucoup plus optimiste dans son cinéma. Donc avec The World, je pense que déjà, il a déjà tourné cette page-là du nos futurs qu'il avait dans ses films précédents, en train de dire, voilà, il y a un avenir possible. C'est là, c'est en train de changer. On a encore du mal à trouver nos repères, mais c'est en train de changer. Les personnages essayent de se construire un avenir en même temps que leur pays.
Je suis étudiant en cinéma. Je fais des films à Paris 8, des films documentaires. C'est intéressant de voir ce parc d'attractions qui reproduit complètement les villes du monde, les grandes villes du monde, les grands sites du monde, et qui propose à des gens de venir vivre comme ça dans le faux. Ça me plaît beaucoup, et c'est, je pense que c'est une image de la Chine et même du monde contemporain. C'est le grand talent de Jia Shangke, à mon avis, de parvenir à parler du monde contemporain, à parler du monde et à concerner finalement tout le monde en parlant exclusivement de la Chine.
Je filme en Chine et j'observe donc l'être humain. Cela dit, je ne veux pas directement filmer l'influence de la société et de la politique sur cet être humain. Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux dépasser ce niveau pour relater ce que je perçois de l'humain de façon plus générale, plus universelle. Mais à l'inverse, toutefois, je ne veux pas filmer un être artificiellement déconnecté de la société et de la politique. Plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est de parler des sentiments, des liens entre les êtres humains en mouvement. Pourquoi ? En mouvement. En tant qu'être humain, on vit au contact d'autres êtres humains, et il en découle des sentiments et des relations. Mais on est dans un environnement qui, lui, en Chine, est en pleine transformation. Cet environnement, donc en pleine mutation, en plein mouvement, exerce, malgré tout, une influence sur les êtres humains, donc sur leurs relations. Ce sont ces bouleversements qui établissent de nouvelles relations entre les êtres.
C'est des pays qui sont en profonde mutation sociale et qui, comme d'autres cinématographies, par exemple en Argentine, où il y a des choses très importantes au niveau social qui se passent, où il y a des choses très, très fortes, des blessures, ou les gens en mangent, puisent là-dedans pour leur cinéma, ont besoin de raconter ça, ont besoin de faire du cinéma pour montrer ça, et à ce moment-là, ça donne un contenu qui est très fort et qui donne une ampleur au film incroyable. Alors après, quand on a le talent de Jia Shangke pour mettre en scène tel qu'il le fait, ça donne des œuvres majeures.
Alexandra Enoxberg, directrice de Aditam. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ce pays est montré au travers de ses films comme étant un pays en construction. Dans chaque film, il y a des chantiers, des routes détruites, des tranchées creusées sur la chaussée. Et parallèlement à ça, une occidentalisation du pays avec de la musique rock, un désir de voyage, un désir d'aller vers l'Occident. Et en même temps, au milieu d'une Chine comme ça en chaos, en construction, qui avance dans tous les sens à une vitesse incroyable, quoi. Et ça, on le sent vraiment dans ces films. Et parallèlement à ça, des personnages plutôt jeunes qui vivent dans le désœuvrement, dans la désillusion, dans le désenchantement, dans la solitude, qui communiquent pas ou peu, qui ont l'impression d'être un peu des espèces de marginaux comme ça dans un monde qui leur échappe un petit peu. Voilà, avec des histoires d'amour qui se passent mal, qui se passent pas comme elles devraient se passer, des histoires d'amour d'une jeunesse désenchantée. Tout ça est englobé d'une manière absolument fantastique dans les films de Jia Shangke. Il n'y a que dans ces films qu'on arrive à vraiment voir ça.
Lui, c'est une vision de l'avenir, c'est un constat du présent, c'est un constat de ce qu'est le pays, de ce qu'il peut être, de comment sont ses habitants, de comment est sa jeunesse. Il parle de la jeunesse, donc il parle de l'avenir. Quand on parle de la jeunesse, on parle de l'avenir d'un pays. Et c'est dans cette ampleur-là que les films de Jazanke avancent les uns après les autres et construisent ce discours-là de film en film.
Gu-shi-pian. Et Gu-shi-pian.
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 就是在我拍故事片的时候，我想尽量的把纪录片的
Ce qui m'intéresse quand je tourne une fiction, c'est de retrouver le plus possible d'atmosphère d'emblée dans un
documentaire.
Par exemple, je mets des acteurs dans des décors et dans des situations réelles. Ça permet de les faire entrer en contact avec des vraies personnes, dans un vrai environnement. Ça donne un résultat plutôt souple qui ne va pas suivre les directions données d'un scénario. Par exemple, dans Plateforme, les acteurs ont joué des représentations sur scène, mais dans des circonstances réelles, avec un vrai public et dont on enregistrait les réactions. Dans Jiaowu, Artisan Pocket aussi, l'acteur qui incarne Jiaowu, à un moment, participe à une réunion de famille. Lui ne fait pas partie de cette famille dans la vraie vie, mais tous les autres personnages sont les membres d'une vraie famille dans la vie. Donc tout ça revient à utiliser les méthodes du documentaire. Pour moi, le plus grand charme du cinéma, c'est d'arriver à filmer l'état naturel des gens. C'est la particularité du cinéma, et c'est ce qui différencie des autres arts.
Jilupian.
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 那在拍纪录片的时候，我觉得对我来说说纪录片其实它是一个
Je pense que le documentaire est un genre qui permet une grande liberté par sa forme et qui permet aussi des expérimentations. Aujourd'hui, beaucoup de documentaires se caractérisent par leurs sujets, qui sont souvent liés à des sujets de société. Moi, ce qui m'intéresse quand je tourne un documentaire, c'est de revenir à quelque chose d'original. C'est comme dans les films de Yuri Stevens, ce n'est pas du documentaire, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma. Ça, c'est la beauté du cinéma. Je pense que dans la vie et dans la réalité, il se passe plein de choses très théâtrales.
Si
on arrive à capter ces instants, on se rend compte qu'ils peuvent être plus intenses que dans un film de fiction. Par exemple,
je filmais
une fois dans un lieu public un vieux bonhomme, jusqu'à ce qu'une femme fasse éruption dans le cadre et qu'elle devienne le sujet principal de cette scène, en changeant complètement la construction du plan. Le documentaire permet d'apprendre énormément sur la vie, sur les relations des êtres humains entre eux. Il permet une compréhension autre que quand on est d'emblée dans la fiction. Une heure en compagnie de
Jazanke.
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 Dans Hors Champ, sur Radio Campus Paris, la Chine est bien éveillée.
Évidemment, la scène de la moto dans Plaisir Inconnu. Donc, c'est un terrain vague avec en fond des immeubles un petit peu délabrés. Le personnage principal qui avance comme ça sur sa moto. Puis finalement, la moto tombe en panne sur une espèce de butte comme ça. Et il va essayer de redémarrer sa moto. Il s'acharne sur son kick comme ça pendant plusieurs minutes, de longues minutes, sur ce long plan séquence. C'est une des scènes qui m'a le plus marquée, d'abord parce qu'elle est extrêmement osée et qu'en plus elle est Pour moi, elle a une référence incroyable au film de Rossellini, voilà, le réalisme italien. Parce qu'au fur et à mesure, quand cette moto démarre pas, ce personnage n'arrive pas à avancer, il est bloqué comme ça sur cette espèce de petit monticule. Au fur et à mesure de cette scène, on se rend compte que voilà, qu'on est face à un personnage qui démarre plus, qui avance plus, qui est bloqué dans un champ désertique, avec au loin une Chine surpeuplée qui s'entasse dans des appartements les uns sur les autres, et que finalement c'est toute la distance entre ce personnage et cette Chine surpeuplée qui est incarnée par cette espèce de no man's land, là, ce terrain vague, qui est en fait presque tout le cinéma de Jazanké, en tout cas une partie du discours du cinéma de Jazanké qui est représenté dans cette scène.
Alors la scène de la moto dans Plaisir d'inconnu, elle n'était pas absolue. Mais bon, un film, c'est comme un visage. On ne peut pas demander pourquoi est-ce qu'il est comme ça. On peut ne pas l'aimer. On ne peut pas demander pourquoi il est ainsi. Il est comme ça. Un point, c'est tout. Moi, je veux que mes films aient une vie. Mais la vie, ça ne s'explique pas. Pourquoi sommes-nous comme ça ? Parce que nous sommes nés comme ça. Dans The World, il y a une scène entre l'héroïne et une danseuse russe, et la relation qui s'établit entre elles va au-delà du langage, puisqu'elles n'ont pas de langage commun, et elles n'en ont pas besoin. C'est assez proche de ma manière de travailler de façon générale. En fait, il est très rare que j'aille interviewer ou poser des questions pour obtenir des informations sur les gens que je veux filmer. En fait, c'est ce que je retire de l'observation de ces gens en train de vivre, qui est bien plus riche que ce que je pourrais tirer d'une interview.
Ouais,
et dans un nouveau film, ce que le public va pouvoir percevoir des relations entre les gens, comme moi j'essaie de les montrer, ce sera plus riche que si j'avais trop décrit et écrit ces relations auparavant dans mon scénario. Pour revenir donc à la scène entre la danseuse russe et l'héroïne, elles ont extrêmement peu répété et ça s'est fait en 2-3 prises. Volontairement, je les avais peu mises en contact auparavant lors du tournage, et donc la nouveauté et la découverte mutuelle que j'ai pu capter lors de cette scène était véritable. Et d'ailleurs, ça nourrit une réflexion qui m'anime actuellement. En Chine, on a toujours accentué les différences entre l'Orient et l'Occident. Le choc des cultures était un concept très à la mode. Et finalement, je me rends compte de plus en plus qu'il y a pas mal de points communs au-delà des cultures, et que les différences, finalement, proviennent des systèmes plus que des cultures. Pourquoi est-ce que je filme en plan séquence ? Eh bien, depuis tout petit, j'aime me placer à un coin de rue et observer les gens. Cette observation en continu, sans rupture, c'est là, dans ces moments-là, que je reçois vraiment ce qui m'intéresse, ce qui me passionne. Ces longs moments de contemplation, en général, sont assez anodins, on pourrait même dire fades, mais parfois un incident survient et vient rajouter du piment. Voilà, c'est ma façon de voir le monde, j'y suis habitué, je l'aime et c'est ça qui me procure du plaisir. Je me sens plus comme un observateur subjectif que comme un scientifique qui ferait une expérience de manière totalement neutre. Subjectif comme tout créateur, comme tout artiste. Cette observation est nourrie par mon parcours particulier, mon vécu, l'environnement dans lequel j'ai grandi, mon tempérament spécifique, mon caractère, bref, mon être dans son entièreté. Je pense que tout artiste revendique et se satisfait de cette posture personnelle qui lui permet de faire part de ses convictions.
Dianying.
Alors pourquoi est-ce que j'ai opté pour le cinéma comme moyen de transmettre ces convictions ? D'abord, à cause d'un désir très profond de relater ce qui est présent, ce dont je suis témoin. Et aussi parce que j'ai grandi dans une période de transformation radicale de la Chine, avec le passage d'une société fermée à une ouverture. Et étant issu de la classe sociale la plus basse, mon vécu personnel est celui vraiment de la partie de la population qui a été la plus sacrifiée, qui a subi ces transformations, qui s'est retrouvée dans une situation très difficile à vivre par rapport au reste de la Chine. Et cette expérience personnelle, je ne la retrouvais pas portée à l'écran, elle était dépeinte d'aucune manière. Et en plus, pendant très longtemps en Chine, il a été interdit de raconter la réalité, et notamment celle-ci. Donc ça a renforcé mon désir de relater ce que j'avais vécu. Et une autre raison primordiale de mon choix de faire du cinéma, c'est qu'il dépasse l'écriture. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens n'ont pas accès à l'écriture, tandis que les images sont plus universelles et qu'on peut toucher un plus grand public. J'ai été influencé par plusieurs films, hein. J'ai été marqué notamment par Les Garçons de Feng Kuei de Hu Jiaozhen. Alors avant, le cinéma pour moi c'était une façon de raconter une histoire complètement exceptionnelle, extraordinaire. Et ma propre expérience, je ne voyais pas en quoi elle pouvait mériter de faire l'objet d'un film. Et après avoir vu Les Garçons de Feng Kuei, j'ai complètement changé d'avis. Et puis il y a eu le premier film de Bresson que j'ai vu, Un condamné à mort s'est échappé. Et là je me suis rendu compte que Bresson ne cherche pas du tout à faire plaisir à son public, il ne fait pas du divertissement. Et c'est en voyant ce film que j'ai vraiment compris cette qualité-là chez lui et que c'était vraiment une qualité de cinéma. Bresson, dans les films de Bresson, j'apprends à observer le temps et l'espace. J'ai lu une phrase de lui il y a longtemps où il disait « Quand on arrive dans un nouvel espace, il faut prendre 3 minutes pour parler avec cet espace. » Ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup inspiré. Quand j'ai commencé à étudier le cinéma, On ne pouvait pas voir beaucoup de films et de documentaires en Chine. On pouvait avoir accès à quelques phrases isolées donc de réalisateurs à partir desquelles on faisait marcher notre imagination et on pouvait commencer à sentir et à approcher des films. Et donc c'est dans cette situation-là que j'ai beaucoup réfléchi sur la forme des films. Nous étions toute une bande, on connaissait très peu de choses, on avait énormément à apprendre et on se posait beaucoup, beaucoup de questions. Et les films occidentaux, on ne pouvait en voir que des extraits pendant les cours d'histoire du cinéma. Alors maintenant, c'est différent grâce au DVD
pirate.
Ce qui m'attire dans le cinéma, c'est le fait qu'il soit lié au temps. Dans la vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne, le temps modifie sans cesse ce que je ressens, mes émotions. Dans Plateforme, par exemple, les personnages sont toujours en train d'attendre. Et l'attente, c'est vraiment lié au temps, bien sûr. Et il en résulte de très belles choses. Mais ces belles choses sont enfouies dans les profondeurs du temps. On ne sait pas trop où. On l'ignore, mais on sait qu'elles sont là, quelque part. Et donc, il faut attendre, parfois longtemps, avant qu'un résultat apparaisse, avant d'obtenir ou de perdre quelque chose de précieux. Le plus important, finalement, dans la continuité de l'espace, c'est la continuité du temps. Moi, je trouve qu'on coupe beaucoup trop d'images intéressantes au montage des films. Or, ce sont quand même les moments où rien ne se passe qui sont les plus nombreux dans notre vie. Alors pourquoi, dans les films, il se passe quelque chose à chaque seconde ? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de raconter des histoires, c'est de filmer mon propre sentiment sur la vie et sur le temps. Et ce que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots, ces moments donc là où on est perdu, ce sont ces moments-là qui sont inoubliables dans une vie. Et donc, sur ce point-là, je ne cherche pas à être en accord avec le public, à satisfaire les attentes des spectateurs. Moi, je veux leur faire comprendre, leur transmettre mon sentiment sur la vie et sur le temps.
Jazz en queue.
Cinéaste moderne, en hors champ, sur Radio Campus Paris.
Dans tous ces films, il y a quand même des séquences d'anthologie, plusieurs par film. Pour moi, la plus belle, c'est dans Plateforme, c'est quand l'héroïne, qui en fait a été amoureux du personnage principal masculin, décide de pas les suivre dans leur tournée apocalyptique de spectacle. Et elle est restée, elle devient facteur ou enfin en tout cas elle travaille dans l'administration. Et elle entend à la radio la chanson qu'ils ont chantée ou qui est un petit peu leur chanson. C'est juste une femme qui regarde ses papiers, la chanson passe à la radio et elle se lève et elle danse, elle est danseuse avant et c'est très très beau. Et manifestement elle ressent tout ce qu'elle a perdu. Le film fait 2h30, c'est un plan qui est d'1h45. J'ai l'impression que tout le film pourrait être construit pour arriver à cette grande mélancolie. Et voilà, on en a un des grands thèmes de Joe Dante qui sont un peu les amours impossibles, quelque chose qui est...
Oui, cette musique me rappelle mes plus beaux souvenirs. C'est mon premier rendez-vous avec une fille à l'extérieur de la ville. Donc, la nuit était tombée, il y avait des lumières. Et au retour, les haut-parleurs de la ville diffusaient cette musique. On entendait la chanson ça de très loin. Et nous marchions tous les deux en silence. Et en sortant de la ville, On a vu plein de lumières dans le ciel, ce genre de signaux lumineux que l'armée utilise en temps de guerre. J'étais très très étonné. Il était hors de question que je tourne cette scène de la plateforme. Elle appartient à mes souvenirs. Chacun a sa propre manière de se souvenir. Pour moi, la musique, c'est la meilleure façon. Ce qui rend le cinéma très précieux à mes yeux, c'est qu'il est un moyen d'exprimer ses sentiments et aussi un moyen de se souvenir. L'arrivée de la musique et culture populaire, pop, ont beaucoup marqué mon adolescence. Il faut savoir comment on occupait nos soirées quand on avait 7-8 ans. C'était juste après la révolution culturelle. Nous ne pouvions guère qu'écouter la radio, mais elle ne diffusait que des informations. Donc nous n'avions aucun divertissement, pas d'activité culturelle. Et en fait, on passait nos soirées assis en silence à la maison. Donc, je suis membre d'une famille de 4 personnes. Mon père était prof de langue au lycée, ma mère était vendeuse, et il y avait ma sœur aînée. Donc le soir, on dînait, et puis on n'avait pas sommeil, donc on n'avait rien à faire, on restait assis. On discutait, quand on avait fini de discuter, on restait assis, en silence, jusqu'à ce qu'on ait sommeil. Quelques années plus tard, un enfant un peu plus âgé que moi m'a confié un secret. C'est-à-dire qu'avec un poste, on pouvait capter la radio de Taïwan et qu'il y passait de très jolies chansons. Donc j'avais désormais ce secret, je pouvais écouter la radio en cachette. Après la couverture des années 80, les magnétophones avec les cassettes ont commencé à apparaître et donc on a pu écouter encore plus de chansons. On avait de plus en plus d'éléments, de choses pour rompre notre solitude. Dans une petite ville, on n'avait ni bibliothèque, ni théâtre, ni salle de concert, ni musée. La musique, ça comptait vraiment beaucoup pour nous. Donc chaque chanson de cette époque-là, c'est un souvenir de mon adolescence. Ces chansons, elles mettent vraiment à me souvenir. Donc dans plateforme, tous les morceaux aident aussi les spectateurs chinois à se souvenir du passé de cette époque des années 80 de l'ouverture. Alors vers 1987, Dirty Dance était sorti en Chine. Donc j'ai pu voir ce film une dizaine de fois et j'ai fini par vraiment connaître la danse du film. Et j'adorais cette danse et du coup j'ai dansé un peu partout avec une troupe que je suivais. Et c'est parmi eux que j'ai entendu la chanson de Plateforme. C'était la première fois que j'entendais du rock. Et puis ensuite on a eu Quick Jam, on a écouté du rock.
Tous ces films parlent énormément de lui et son rapport à la Chine, à la province, à la ville, aux amours impossibles. Enfin, là, je pense qu'il met beaucoup de son intimité.
Parce que je ne comprends pas.
J'ai dédié plateforme à mon père parce que il ne me comprenait pas en fait. Au début des années 80, mon père n'avait aucune idée de ce que je pouvais penser, de ce que je pouvais voir, de vivre. Il ignorait vraiment tout de moi. Et j'ai eu beaucoup de mal à supporter ça parce que en Chine, le lien entre le père et le fils est très fort. Et nous n'étions pas très proches. Alors plutôt que d'aller le voir, lui parler, essayer de lui dire ce que je pensais, ce que je voyais, ce que je vivais, eh bien j'allais essayer de lui montrer ça en faisant un film. Il faut dire que je ne suis pas très doué pour exprimer mes sentiments, donc j'ai utilisé ce moyen finalement assez classique pour le faire. J'ai réalisé un film. Donc, quand mon père l'a vu, il n'a rien dit. La plateforme, nous n'avons pas vu le film en entier. On a acheté un DVD pirate du film au marché. Un DVD pirate de mauvaise qualité. Donc on l'a vu ponctuellement, de partie en partie. Mais on a vu l'essentiel. Alors j'ai vu la phrase avant le film, dédiée à mon père. C'est peut-être une manière de communiquer entre nos deux générations. À travers ce film, je me suis en tout cas rendu compte que les jeunes ont vraiment une façon de penser beaucoup plus libre, plus rapide. Beaucoup plus libre que la nôtre. En 99, Jia Zhangkai est interdit de tournage pendant 5 ans par les autorités chinoises. Ses 3 premiers longs métrages ont été censurés par le bureau du cinéma. The World est le premier film autorisé par le bureau du cinéma chinois et coproduit par un studio d'État. Il est sorti en Chine le 15 avril. J'ai toujours cette exigence envers moi-même, c'est-à-dire que si je dois choisir entre pouvoir montrer mes films librement en Chine et une plus grande liberté d'expression, je choisirais la liberté avant la diffusion. Alors aujourd'hui, il se trouve que The World sera mon premier film à sortir librement en Chine. C'est le résultat d'une évolution du système de censure chinois et aussi la traduction d'une plus grande ouverture de la société en général. Moi, je continue, comme j'ai toujours fait, mon travail de créateur. Mais il faut quand même savoir que cette évolution de la censure, ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat des efforts simultanés de tous les réalisateurs indépendants chinois depuis des années. Alors j'ai déjà eu de bonnes réactions lors de projections clandestines de mes 3 premiers films, mais le public était essentiellement universitaire, issu du milieu intellectuel. Et grâce à une diffusion en salle, on peut toucher tout type de public, ce que j'espère. Les réactions que j'attends du public chinois, celles qui me feraient le plus plaisir, seraient « Ah, mais il est en train de filmer notre vie à tous. »
descends dans un camion embourbé au milieu d'un espèce de terrain vague au milieu de nulle part, et t'as un énorme pont qui traverse tout ce terrain vague entre deux collines. Et tout d'un coup, ils sont dans ce camion qui tombe en panne, un complètement désabusé, avec, je sens pas de forme, mais... Et tout d'un coup, ils entendent les bruits du train, et ils ont une espèce d'élan de liberté, une volonté de voyager. Et donc, du coup, ils commencent tous à courir, à monter sur le pont, mais c'est très très long, donc ça prend énormément de temps. Le train vient de très loin. Et là, ils arrivent derrière le train qui vient de passer sur le pont, et ils sont sur les rails, tous complètement essoufflés, en train de crier, avec une espèce de, voilà, quoi. T'as vraiment un moment, dans cette scène-là, toute l'envie de liberté de la jeunesse chinoise, que la jeunesse chinoise peut avoir aujourd'hui, et c'est une scène qui est comme ça incroyable, avec une espèce d'ampleur, une espèce de longueur, et à la fois c'est très dense.
En Chine, il y a pas mal de gens qui raisonnent d'une manière qui trouble la sérénité générale. C'est-à-dire beaucoup de choses apparaissent dans le but de s'opposer. Mais à force de s'opposer, on devient son propre adversaire. C'est-à-dire, si on prend comme exemple les opposants à un régime dictatorial... Souvent, ils deviennent eux-mêmes des dictateurs. Moi, je souhaite, au contraire, reconstruire une culture dont le but ne soit pas de s'opposer à quoi que ce soit. On a tendance à oublier les choses effrayantes qui sont derrière nous, dans notre passé. Alors, sur la question de la culture, je pense qu'il faut faire très attention à se souvenir, pour rester vigilant.
Alors, actuellement, deux projets en cours, un documentaire et une fiction qui se déroule pendant la Révolution culturelle. Dès 1966, la Révolution culturelle ébranle toute la structure du Parti communiste chinois. Une vaste campagne populaire de critiques contre les enseignants, les chefs du Parti communiste et tous les détenteurs d'autorité est déclenchée. Les gardes rouges sillonnent la Chine entière pour détruire tous les monuments, livres et autres vestiges inspirés de l'ancienne culture chinoise. Mao Tse-tung est l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Des millions de Chinois portent sur eux le petit livre rouge, recueil des pensées de Mao. Très vite, le mouvement dégénère, des troubles apparaissent dans toute la Chine, au bord de la guerre civile. Les villes sont paralysées par des grèves et des combats de rue. L'armée finira par absorber et dissoudre les membres des gardes rouges entre 67 et 71. La révolution culturelle a bouleversé la société chinoise, la structure de son gouvernement, le système d'enseignement et l'économie. Une majorité des élites citadines ont été exilées dans les campagnes pour être rééduquées auprès des paysans. La révolution culturelle a été accompagnée d'une répression de fer qui a fait plusieurs millions de victimes. Le 11e congrès du Parti communiste chinois en 1977 met officiellement fin à la révolution culturelle après la mort en 1976 de Mao Tse-tung et Zhou Enlai, premier ministre. Pour le documentaire, il n'y a pas de souci au niveau financement, autorisation. En revanche, pour la fiction, ça sera plus difficile à cause du sujet qui est sensible. Le gouvernement n'a pas encore très envie de voir cette époque, donc la révolution culturelle, portée à l'écran. Le financement est néanmoins en train de se mettre en place.
贾樟柯作为中国最年轻一代导演的代表，被誉为当代中国最富洞察力的技术者。
贾樟柯，
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 贾樟柯。
Hors Champ consacre une heure à Jia Zhangke, chef de file des cinéastes indépendants chinois sur Radio Campus Paris.
On voit que c'est vraiment un cinéma qui évolue, qui est surprenant, et que faire The World aujourd'hui avec une telle liberté, en mêlant de l'animation, de la musique, de la danse, des scènes chantées, dansées, comme ça, voilà, j'ai l'impression que c'est un cinéaste qui, de film en film, se libère de ses inspirations. On pense à Bresson, on pense à des cinéastes comme ça, voilà, qui l'ont énormément, dont il est énormément imprégné, et qu'on a beaucoup vu dans ses premiers films, et qui là trouve de film en film son cinéma, sa liberté de réalisation, son audace, et qu'il avance, oui, de film en film, de manière extrêmement surprenante et en même temps pas complètement voilà, c'est pas quelqu'un qui change du tout au tout, quoi, qui tient sa ligne tout en mêlant et en avançant vers son propre cinéma, et avec des personnages qui grandissent. Voilà, au départ c'était des jeunes gens de 20 ans, aujourd'hui je pense que c'est des trentenaires et voilà, et qu'il y a une maturité.
说实话就是我拍电影得到现在整整七年的时间。
Si je me penche sur mes 7 années de carrière, je peux dire rétrospectivement que j'ai eu beaucoup de chance, que les choses se sont bien passées. J'ai pu réunir des financements, tourner des films dans des temps très courts, trouver des façons de les montrer sans trop de problèmes, notamment à l'étranger. D'un point de vue plus personnel, je considère que je n'ai pas encore fait le ou les films qui pourraient me satisfaire à 100%. Je n'ai pas encore fait, mais disons entre guillemets, bon film. Pour moi, un bon film, ça serait celui dans lequel je pourrais faire passer ce que je ressens, arriver à transposer à l'écran ce qui caractérise l'existence d'un Chinois. Surtout pour la période qui, moi, m'intéresse et me préoccupe, c'est-à-dire entre la révolution culturelle et aujourd'hui. Porte peu la modestie de ses origines. Hautes sont mes ambitions, grande est ma fierté. Un seul mot me taraude, c'est le mot amour. Toute ma vie, je l'ai poursuivi sans savoir le retenir. Notre amour est si fort qu'il nous rend aveugle au monde. L'amour, comme la haine, brûle pour toujours dans nos cœurs. Ceux qui s'aimaient, hélas, ne vivront pas ensemble. Comment pourrais-je jamais t'oublier? Que m'importe le chagrin, que m'importe les regrets, que m'importe la nostalgie? Tu ne me comprends pas. Que m'importe la souffrance, que m'importe la lassitude? J'ai au gré du vent, je vagabonde, libre et insouciant. Viens au gré du vent, je vagabonde, libre et insouciant. On peut filmer le silence, tous ces moments, ces instants où on ne sait pas trop quoi dire, on a l'impression d'être perdu, on
ne sait pas quoi faire. On bout dans une rue, on se demande ce qu'on fait là, ce qu'on doit faire. Eh bien, le cinéma, il exprime très très bien ces instants-là. Jean-Luc Godard a dit que le cinéma avait inventé le silence. C'est vrai, une caméra en train de tourner produit du silence. Une caméra produit du silence.
La scène finale le plus inconnue, quand le héros est dans le commissariat et que le commissaire lui demande de chanter une chanson et que il se met debout dans un coin et commence à chanter sa chanson avec ses paroles aussi touchantes. C'est des scènes qui sont incroyables.
让我哭也好，让我累也好，横苍天地都不明了。让我哭也好，让我累也好，随风飘飘天地人逍遥，英雄无法出生太难保，有这几高难天也骄傲，就为一个人自尽难了，一生一世相不不不老，相爱深深天都看不到，恩怨世世代代心头少。
Un grand merci à ceux qui ont rendu cette émission possible. Jazz Anke, bien sûr. Pascal Way pour les traductions. Alexandra, Grégory et Arthur, l'équipe d'Advitam. Li Bing et Anne-Sophie. Cheche, merci. Certains extraits proviennent du double DVD édité par Arte Vidéo de Plateforme et Plaisirs Inconnus et du documentaire Made in China de Julien Celleron.
Merci.
Ouais, je pense que je suis arrivé à un point où j'ai accumulé beaucoup d'expérience tout en étant encore relativement jeune. Donc c'est maintenant que je dois faire les plus grands efforts. Et j'ai confiance en moi pour l'avenir.
Yeah, 好，让我回也好，很常见你。